Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le record du salaire des patrons du CAC 40 en 2021, calculé par Proxinvest en intégrant l'ensemble. Alors voilà, j'ai dit les salaires justement. Eh bien, c'est la rémunération. Ça intègre l'ensemble des éléments de rémunération, y compris les éléments de long terme qui peuvent être soumis à des aléas de marché. On est à 7 900 000 euros en moyenne, nous dit Proxinvest, donc pour le CAC 40 en 2021. Pour le SBF 120, la moyenne est à 4,5 millions d'euros. L'OCDE alerte sur une inflation qui va rester élevée, sur un choc énergétique mondial qui va durer. Alors, que peuvent faire, que doivent faire les banques centrales dans cette circonstance? Est-ce qu'il faut continuer à monter durablement les taux, comme a prévenu la BCE il y a quelques jours? Cette arme des taux est-elle vraiment la bonne réponse à l'inflation que nous connaissons? On verra d'ailleurs qu'il y a un décalage entre les discours des banquiers centraux et la façon dont les marchés aujourd'hui vivent les choses. Le pouvoir d'achat va-t-il durablement baisser avec les éléments que je viens de citer? On se posera la question. Il y a le FMI qui nous a interpellés hier sur la question de la dette, et tout en livrant ses recommandations. Et puis, c'est un élément de réconciliation, on va dire, entre Paris et l'Allemagne. Les deux pays demandent à Bruxelles de réagir vraiment et vite face à cette fameuse loi anti-inflation qui a été votée aux États-Unis l'été dernier. Les deux ministres allemands et français y voient vraiment une distorsion de concurrence entre les États-Unis et l'Europe. Proxinvest indique que la rémunération... Ah ben, je vais quand même présenter mes invités pour commencer. Laurence Daziano, bonjour. Maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à la Schema Business School et également à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi ancien vice-président de l'autorité de la concurrence. On peut vous lire dans les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence, l'Opinion. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Donc Proxinvest a donné le montant, 7,9 millions d'euros en moyenne en 2021, record historique pour la rémunération des patrons du CAC 40. C'est une hausse de 52% comparée à 2019. Pour le SBF 120, on est à 4,5 millions d'euros. La hausse est de 22% comparée à 2019. La rémunération des patrons du CAC 40 représente 100 fois la rémunération moyenne de leurs propres salariés. C'est une première depuis 8 ans. On a tous les ingrédients d'un bon sujet à la française, Emmanuel Combes.
Oui, c'est un sujet qui est passionnant. Et il est passionnant parce qu'il y a une grosse littérature économique, mais depuis 30 ans sur le sujet. Alors, sans prendre parti, on peut dire qu'il y a deux grandes approches. D'abord, pourquoi des rémunérations, vous l'avez dit, pas des salaires,
hein, oui.
Des rémunérations aussi élevées. Et puis ensuite, comment expliquer que ces rémunérations sont finalement peu des salaires, mais plutôt des rémunérations variables, notamment des bonus. Alors, pour les salaires très élevés, il y a des explications intéressantes, notamment une première explication qui est assez proche, je dirais, du marché des superstars, du marché des footballeurs, qui est la théorie de la rareté. Je crois que c'était Schleifer qui disait, finalement, il y a un marché des dirigeants qui sont capables notamment de redresser des entreprises qui sont en difficulté. Ces dirigeants-là sont en quantité rare. C'est un marché international. Et bien, tout ce qui est rare est cher. Premier type d'explication.
Seulement, le mercato des patrons français, il ne crève pas les yeux. Il est beaucoup plus vrai dans le foot qu'il n'est vrai chez les grands patrons.
Sans doute. Et il y a une deuxième explication que j'ai trouvée intéressante, c'est la thèse de l'effet de levier, qui veut dire quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a beaucoup de salariés, votre décision a potentiellement un impact démultiplié. Et donc, il devrait y avoir une corrélation, en fait, entre la taille de l'entreprise, mesurée par son chiffre d'affaires, par son nombre de salariés, et votre rémunération. Et ça marche assez bien. Mais du coup, ça nous emmène sur un autre type de débat, hein, peut-être plus mouvant, plus délicat, qui est de dire, mais est-ce que du coup, le patron n'a pas une incitation à faire augmenter la taille de son entreprise pour percevoir une rémunération plus élevée? Et là, on arrive au deuxième sujet, qui est moins la question du niveau de la rémunération que de sa composition. Et là, vous avez une vieille théorie économique, enfin, qui date des années 30, le gouvernement d'entreprise, qui vous dit, les actionnaires, ils contrôlent pas vraiment l'action des managers, parce que les managers, ils sont tous les jours dans la boîte, hein. Un moyen, en fait, de les contrôler, en tout cas de les inciter à avoir de la performance cette fois-ci, c'est pas seulement de bien les payer, c'est en fait de les payer en variable. Et donc c'est toutes les rémunérations qui sont en fait indexées sur des indicateurs de performance. Performance dans les deux sens du terme. Si ça marche bien, ils touchent leur stock option, mais si les performances ne sont pas au rendez-vous, par définition, ils ne percevront pas ces bonus. Donc c'est intéressant. Il y a quand même des justifications, je dirais peut-être pas des justifications, mais des explications économiques à cela. Puis il y a une dernière théorie qui est intéressante, c'est la théorie du tournoi, qui vous dit en fait, dans un tournoi, il faut payer démesurément le premier pour inciter ceux qui sont juste en dessous, donc là on parle plutôt du marché des top managers, à être extrêmement efficaces parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre la place du calife. Ce à quoi d'autres auteurs vous opposent, attention, si vous avez des écarts de salaire trop importants, notamment dans le top management, vous pouvez avoir des problèmes de coopération et donc de travail en équipe. Donc vous voyez, il y a une littérature économique qui ne tranche pas le sujet, mais qui en tout cas l'aborde de manière assez frontale. Et moi j'aime beaucoup cette idée qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre la taille d'une entreprise et sa rémunération.
Pas la valeur de l'action aussi.
Exactement.
Ce n'est pas qu'une question de taille, mais la valeur de l'action.
Ouais, regardez les travaux d'Augustin Landy hein, dans les années 2000. Hein, il avait montré qu'il y avait une corrélation assez forte. Hein. La taille est quand même un facteur explicatif très fort.
Et c'est pas le même sujet, mais il y a un chiffre fascinant aujourd'hui justement sur ce que peut changer l'évolution de la valeur d'une action quand on apprend que Elon Musk a perdu 100 milliards d'euros de fortune.
Alors, attention,
en
Elon
2022.
Musk, il n'est pas salarié de sa boîte.
Oui.
Pour le coup, il est actionnaire.
Ah oui, c'est vraiment voilà. On peut se dire
Il est les deux.
Oui. Et le suivant, c'est Mark Zuckerberg, moins 83 milliards de dollars. Alors lui aussi, il est un peu les deux.
Oui, mais après, faut. J'aime pas trop ces éléments-là parce que, en gros, on compare.
Quels éléments vous voulez dire,
tous ces
Christian.
Éléments d'appréciation du patrimoine de côté. Aujourd'hui, vous valorisez la richesse de Monsieur Musk par rapport au dernier prix échangé de son action Tesla. Bon, on sait, il a 40% de Tesla, donc forcément, $1 de variation de l'action, ça, c'est énorme en termes de valorisation. Mais c'est comme si je valorisais tout un commerce sur son stock. Et je disais, le dernier pull qu'ils ont vendu à 10 euros, bah voilà la valeur du stock. On sait que si derrière le magasin vend d'un seul coup tout son stock, et bah, il va pas le vendre au prix du dernier pull. Donc c'est ça le gros problème qu'on a, c'est qu'on valorise un patrimoine. Alors je sais que c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais c'est une photo. Ce qu'il faut bien comprendre. Et on compare cette photo avec une année de référence. Alors, si la bourse a pris 10%, il s'est enrichi de 10%. Si l'action a chuté de 30%, il a perdu 30% de sa fortune. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il n'aurait pas vendu, d'ailleurs, au prix de marché qu'on observe aujourd'hui. Donc, il y a toujours, faut prendre toujours ces comparaisons avec beaucoup de prudence. Et pareil, dans la rémunération des patrons, ce qui me gêne beaucoup, c'est la partie variable. Alors, je sais, il faut la valoriser, c'est très difficile. Mais on valorise aujourd'hui des actions gratuites qui leur sont versés sur la netteté, mais qui pourront vendre que dans 2 ans minimum, bloqués 2 ans, 4 ans au minimum, voire des fois avec
et
des
donc clauses. Donc on prend le prix de l'année.
On prend le prix d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais est-ce que dans 4 ans, ils vont le vendre à ce prix-là? Est-ce que ça rentrera réellement à ce niveau de rémunération? Tout dépend de l'action. Et puis derrière, il ne faut pas se leurrer. Quand un patron rentre dans une entreprise en difficulté, je pense au numéro 1 du CAC 40 qui est rémunéré, il a forcément un prix attractif puisque l'action est au plus bas. Et s'il redresse l'entreprise, il a forcément un effet de levier très important. Donc cette partie variable. Cette partie variable me gêne aussi parce que c'est très difficile à apprécier. Après, moi je pense qu'il y a quand même un vrai problème aujourd'hui dans les salaires des grands patrons, c'est justement la valorisation de ces parties variables quand on leur met des contraintes environnementaux, sociaux, comment on les détermine, comment on met ces contraintes, est-ce qu'elles sont vraiment si rigoureuses ou pas. En tout cas, c'est juste là où il y a aussi un problème de valorisation. Mais en tout cas, toute la partie variable, faut faire très très attention. Encore une fois, c'est la rémunération, c'est pas le salaire. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et on compare en plus cette rémunération au salaire moyen de l'entreprise, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, je pense qu'il faut approfondir le sujet et pas surtout en parler comme un chiffre global.
Et c'est évident. Alors, c'est toujours un sujet qu'il faut prendre dans sa complexité, ce qui est exactement le contraire généralement qui est fait lors des débats un peu grand public où on va parler du salaire, pas de la rémunération, tout confondre. Et on s'imagine par exemple que M. Tavares, il a mis sur son compte en banque 66 millions d'euros en 2021. Bon. Oui, un dernier mot là-dessus, parce qu'après on avance.
Ouais, juste pour réagir à ce que disait Christian, je ne suis pas sûr que ça n'a pas de sens de comparer le salaire du top manager avec celui de ses salariés, si on croit à la théorie de la désincitation, qui est de dire, pour le salarié, il peut se dire, mais en réalité, est-ce que je vaux 100 fois moins que mon top manager. Il y a quand même une grosse littérature économique qui vous montre que dès lors que vous considérez que les performances sont liées à l'équipe, il peut y avoir paradoxalement un effet extrêmement désincitatif. Et un deuxième point, ce qui peut être peut-être gênant dans ces rémunérations, c'est les clauses de restitution. Moi, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où vous avez des rémunérations qui sont quand même en moyenne, même si j'entends votre point sur la manière de la valoriser forte, vous devez aussi avoir des clauses de restitution quand ces performances ont été acquises par des moyens qui sont contraires à l'ordre public. Par exemple, dans le sujet que je connais bien, si par exemple vous avez eu votre performance parce que vous avez fait une entente sur les prix qui a été par exemple condamnée par une autorité de concurrence, il me semble pas complètement illogique que les actionnaires soient en mesure de reprendre le produit de cette performance puisque finalement vous l'avez acquis par un moyen qui, un, illicite et deux, qui ne relève pas de la concurrence par les mérites.
Il faut reconnaître qu'en France, la loi Sapin 2 a donné un sacré pouvoir aux actionnaires dans la mesure où les entreprises sont de droit français, ce qui n'est pas le cas de Stellantis. Et donc le rejet par l'Assemblée Générale de la rémunération mais globale
de Carlos Tavares. Mais il n'y a pas de clause, je crois pas qu'il y ait de clause de restitution dans le code AFEP-MEDEF.
Bon, en tout cas, c'est assez... moi je me suis toujours dit, est-ce que... alors je prends le sujet avec beaucoup, beaucoup moins de littérature académique ou de précision que Christian Parizeau, mais je me suis toujours dit, le gars, est-ce qu'il sera meilleur ou moins bon s'il est payé 2 millions de plus ou 2 millions de moins? Je ça pense dépend. Que, franchement...
Ben... ça dépend si vous croyez à la théorie, oui, par exemple, de l'effet de rareté.
Ouais. Bon. Et puis, c'était Jean-Baptiste Rudel qui disait, le fondateur de Criteo, vous savez, quand vous gagnez 4 millions, si vous en gagnez 5, finalement, ça change pas grand-chose.
Nicolas, c'était un vrai sujet, par exemple, dans la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Je me souviens qu'on avait eu ces débats il y a plusieurs années.
Là, il y a un sujet, oui.
Certains dirigeants disaient, je ne viendrai pas bosser pour une entreprise publique, on n'attirera pas forcément les meilleurs. Il y a une relation entre le niveau de la rémunération, oui, et la capacité à attirer.
Quand on a capé le salaire des entreprises publiques à 450 000 euros, là, franchement, oui, là, on est très, très, très en dessous d'une forme de repère universel pour le salaire d'un grand patron. Ils ont galéré pour trouver Luc Rémont à la tête d'EDF, parce que c'était pas très attractif, 450 000 euros. Bon, à côté de ça, ça reste aussi une grosse somme, quand on voit qu'au moment de l'indemnité inflation, on a pris conscience qu'on avait 38 millions de Français qui avaient des revenus, pas forcément du salaire, mais des revenus à 24 000 euros, en dessous de 24 000 euros net par an. L'OCDE, Laurence Daziano, nous alerte sur l'inflation, ça va durer. Le choc énergétique mondial, ça va durer. La croissance, ça va ralentir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, une croissance qui ralentit en 2023, mais l'OCDE dit qu'il n'y aura pas de récession. Ce que moi, j'ai noté de très intéressant, c'est aussi que l'OCDE nous dit que la croissance en 2023 et en 2024 sera tirée par l'Asie, pour ses trois quarts, et notamment par les pays émergents d'Asie. Donc ça, c'est intéressant au moment où on parle à chaque fois, peut-être qu'on y viendra au ralentissement du commerce mondial, voire certains de démondialisation, de déglobalisation. Donc ça, c'est intéressant. Alors c'est vrai que l'inflation va augmenter, ce qui va entraîner des politiques monétaires probablement plus restrictives. La BCE, Christine Lagarde, qui s'exprimait la semaine dernière devant les banquiers à Francfort, a indiqué que la BCE aurait une politique, continuera d'avoir une politique restrictive. Quand même noter que la BCE a augmenté son taux directeur de 200 points de base depuis le mois de juillet, ce qui s'est jamais vu à la BCE, ce qui est énorme.
C'est rythme-là, oui.
Que la prochaine augmentation, parce qu'elle a dit qu'elle aurait lieu, elle était plutôt attendue par les marchés à 50 points de base, mais ce qui va quand même commencer à faire beaucoup. Et puis surtout, ça veut dire que le renchérissement du crédit pour les banques va avoir un impact sur tout le monde, et au-delà de ce renchérissement, ça veut dire aussi que la Fed commence à faire c'est la fin du quantitative easing, et qu'on va commencer à parler du quantitative tightening, comme on dit en anglais.
C'est l'inverse, c'est le moment où on se retire,
voilà, c'est le moment
et où on dégonfle le bilan.
Voilà, et le moment où on va commencer à dégonfler le bilan, avec des lignes directrices qui ont été annoncées pour décembre, pour voir comment est-ce qu'on va réduire les achats obligataires, de la BCE. Ce qui me gêne toujours, c'est l'espèce d'alignement de la BCE sur la Fed. Au moment où on voit qu'aux États-Unis, il y a un frémissement sur le fait que l'inflation serait un peu moins importante. Mais c'est surtout que les deux inflations ont des causes totalement différentes.
On l'a souvent décrit ici, oui. Absolument.
Voilà. Donc, pour aller vite, aux États-Unis, une inflation qui était vraiment due à la surchauffe de l'économie. En Europe, une inflation qui a largement été importée. Importé parce que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté, et importé aussi parce que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Donc, est-ce que les causes n'étant pas les mêmes, est-ce que la même politique aura les bons effets? Pour le coup, Christine Lagarde, elle, pour 2023, au contraire de l'OCDE, dit qu'il y aura une récession en Europe. Voilà, je suis pas sûre que la politique soit vraiment adaptée à la situation européenne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Christian Parizeau, parce que je pense que c'est un sujet que justement la littérature économique devra renseigner. La période que nous vivons est quand même, à mon avis, une période qu'on n'a jamais vécue dans ces termes-là. Et on continue à se poser la question de savoir si la politique monétaire et la hausse des taux est la réponse appropriée. Et effectivement, les deux inflations ne sont pas les mêmes. Ça commence à ralentir aux États-Unis. On pense même que le pic a probablement été atteint, ce qui n'est sans doute pas le cas dans la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, pas les mêmes. Il y a quand même des éléments importants qu'il faut avoir en tête. Moi, il y a un constat tout simple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que l'inflation est liée au salaire. C'est pas les hausses de salaire qui fait l'inflation. Vous regardez, vous avez eu l'accord en Allemagne, 8,5% de hausse, mais sur 2 ans. Et donc, oui, on est très, très, très loin de l'inflation que vont subir les ménages allemands sur 2023, 2024 et 2025.
On a passé les 11% en rythme annuel en
Voilà,
Allemagne.
Hein, donc on a un choc, très clairement, sur le pouvoir d'achat. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que c'est la hausse des salaires qui entretient l'inflation.
Et d'ailleurs, personne ne le dit.
Voilà.
Tout le monde a cherché à l'éviter, mais personne ne le dit.
Par contre, il y a quand même un problème. C'est pourquoi les entreprises réussissent à monter les prix. Moi, j'ai regardé, par exemple, les résultats de Coca-Cola. Un exemple purement micro. Coca-Cola, 19% de hausse de ses produits de prix en Europe. 19% en un an.
Les marques Coca ont pris 19%.
En moyenne, avec le mix produit. 19% de hausse. Hein. Donc, vous voyez, comment est-ce que vous auriez imaginé, il y a encore quelques années, annoncer qu'une entreprise de biens de consommation courante puisse monter les prix de 19%. Donc il y a quand même eu une capacité des entreprises, un pricing power des entreprises à relever les prix.
Et oui, l'un là, des vous éléments, prenez Coca, effectivement, c'est une marque irremplaçable.
Voilà, l'un des éléments
qui est. Je suis pas sûr qu'un vendeur de pâtes puisse se permettre.
Oui,
même...
non, mais on parle de l'alimentation. L'alimentation, on est à plus 15%, et c'est vrai que on voit que ça a un des impacts. Mais ça joue sur le panier de consommation, ça joue sur le comportement. Mais il y a quand même un élément qui montre que par le passé, mais je suis pas sûr que ça continue, mais que par le passé, les entreprises ont pu remonter leurs prix de vente. Et pourquoi ? Parce qu'on a eu un excès d'épargne qui s'est matérialisé durant la période sanitaire, durant la période du Covid. Les ménages ont eu de l'épargne et ont amorti ce choc inflationniste par leur épargne. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on commence à avoir des banquiers centraux, et notamment il y avait un discours hier d'une présidente de la Fed de Cleveland aux États-Unis qui disait... Aujourd'hui, l'un des éléments de la politique monétaire, c'est pas forcément de jouer sur le salaire, c'est pas forcément l'un des éléments, ça sera de mieux rémunérer l'épargne pour que justement cette épargne elle reste finalement en placement, qu'elle ne nourrisse pas la consommation et que finalement ça ralentisse la demande. Et donc là, on est sur un changement de discours des banquiers centraux qui est de dire non seulement je vais ralentir l'économie, je vais ralentir la demande, mais pour ralentir la demande, faut que je rémunère maintenant de manière durablement élever l'épargne
donc,
pour éviter que cette épargne finalement continue de nourrir la demande et entretienne l'inflation. Donc c'est quand même un petit élément changeant.
Ça plaide pour des hausses de taux.
Alors, ça plaide pour des hausses de taux, mais ça plaide aussi surtout, et ça c'est le moment le plus important, pour des hausses de taux durablement, une politique monétaire durablement restrictive. Parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers, c'est la Fed monte ses taux ou la BCE monte leur taux à un maximum, et puis dès le deuxième semestre, on baisse. Et tous les discours qu'on a sur la croissance mondiale, c'est mauvaise récession ou quasiment pas de croissance au premier semestre 2023 et après rebond. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que justement, ce rebond, il soit pas là, parce que d'une part, on va pas forcément avoir cette détente de politique monétaire, puisqu'on va avoir des banquiers centraux qui vont rester sur cette politique. Et puis après, d'autres éléments, par exemple, comme la crise énergétique, elle reviendra l'hiver prochain. Donc, il y a des éléments qui font dire que, attention, on sera peut-être plus sur des scénarios en W que véritablement un scénario en V, comme l'espèrent aujourd'hui les marchés. Et puis surtout, on est sur un changement de discours des banquiers centraux qui est beaucoup plus profond que ce qu'on est en droit de percevoir.
C'est un élément très nouveau que vous nous apportez sur le fait qu'effectivement, la question de la rémunération de l'épargne entre dans le spectre de la réflexion des banquiers centraux pour éviter que cet excès d'épargne ne nourrisse la consommation et donc n'ait d'effet inflationniste. Ça veut dire... Emmanuel Comte, on a une 40 avant de marquer une pause.
Oui, deux remarques par rapport à ce que disait Christian. La première, très rapide, je vous l'avais dit déjà en septembre, moi je pense qu'on est parti sur une inflation structurelle. C'est-à-dire, c'est pas que conjoncturel. Alors, ça veut pas dire qu'on va rester à 6% hein, ou à 8% ou à 10%, mais on est parti pour une inflation de l'ordre de 3-4% à cause de la transition climatique. On nous dit tout le temps, mais non, l'inflation est d'abord due à la hausse du prix des énergies. Oui, mais la hausse du prix de l'énergie elle-même résulte de la transition climatique. Si vous montez la taxe carbone, mécaniquement, vous avez un effet sur le prix des énergies. Donc, ça, c'est quelque chose qui sera durable. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait Christian sur l'idée que les entreprises avaient du pricing power. Je suis pas sûr, le pricing power, c'est la marge. Ce qu'on voit, c'est qu'elles augmentent leur prix. Mais pourquoi elles augmentent leur prix ? Parce que leurs coûts ont augmenté. En fait, c'est un choc symétrique. Il y a une étude de l'Inspection Générale des Finances la semaine dernière sur un échantillon de 12 produits alimentaires qui vous montre qu'en réalité, elles sont d'abord en train de reporter. Tout n'a pas été reporté. Et en réalité, c'est simplement du report de coûts. Donc les marges, selon cette étude, les marges n'ont pas augmenté. Il y a une étude du FMI il y a un mois. Est-ce qu'on aurait des comportements de pricing power au sens strict, c'est-à-dire de la concurrence en fait. Et le FMI dit, finalement, on peut pas déduire de l'atténuation de la concurrence sur les marchés, le fait qu'il y ait plus d'inflation. Donc c'est plutôt des reports de coûts parce qu'elles subissent un choc elles-mêmes sur les matières premières et sur le prix de l'énergie.
Mais ça a forcément des limites, les reports de coûts.
Bah non, si c'est symétrique.
Oui, mais il y a un moment, alors, mais il y a un
vous
moment
avez vous avez...
mais il y a un moment vous finissez par toucher les prix psychologiques que le consommateur ne peut plus supporter.
Nicolas, c'est pas
on en parlait avec Jérôme Dénéon pour ses confitures artisanales, il dit moi quand je suis à 9 euros le pot, je peux
mais
pas
Nicolas,
passer.
C'est pas pareil d'augmenter seul son prix et de perdre des clients et quand tout le monde augmente ses prix, parce que là vous avez juste un effet macro qui est que ça va ralentir la consommation.
Après, il y a juste un point, c'est que moi je regarde plus les grosses entreprises cotées et c'est vrai que je pense que les grosses entreprises ont plus de pricing power et je pense que c'est le tissu des petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément en ce moment et je pense qu'on va avoir vraiment un effet en cas véritablement avec des écarts de secteurs et des écarts de valeur, de niveau de valeur qui va jouer dans les prochains mois.
On marque une pause dans un instant. C'est pas hyper réjouissant ce que vous racontez, Christian Parizeau. On va voir comment le pouvoir d'achat peut réagir et justement quel est le rôle qu'on peut espérer de la concurrence. Après, on parlera des interpellations du FMI et justement de la position peut-être de distorsion de concurrence des États-Unis. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Laurence Daziello, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous allez signer une note bientôt qui va être publiée par la Fondapol justement sur l'opposition entre le business américain et le business européen, c'est ça?
Ça est déjà paru, celle-là.
Ah, celle-là est parue,
elle
d'accord.
Est déjà parue.
Il y en a une autre. Quel travail. Emmanuel Combes, professeur à la Schema Business School et à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence. Et Christian Parizeau, économiste conseiller auprès de LBGC. Bon, dès qu'on parle des salaires des patrons, la rémunération des patrons, le package global, fixe, variable, rémunération de long terme, action de performance, il y a toujours beaucoup de réactions. Il y a cet auditeur qui m'écrit, les rémunérations variables sont validées par des comités de rémunération composés de copains, qui valident toujours tout. Bon, je ne sais pas si c'est vrai partout, ça doit pouvoir exister. Les PDG français sont des gagne-petits. La rémunération du PDG d'Apple frôle les 100 millions de dollars, m'écrit cet auditeur. À la différence des patrons, les salariés ne perçoivent rien ou très peu quand la boîte fait des bénéfices. Faudrait regarder, ça vaudrait la peine de faire une étude sur le CAC 40, en cas de très belle année, qu'est-ce qui remonte dans la poche des salariés en participation, en intéressement, en dividendes, puisque, par exemple, Total, les premiers actionnaires de Total sont des salariés. Je ne sais pas si ça a été fait, ça. Je ne sais pas si vous avez une idée. Ça vaudrait la peine de regarder précisément, effectivement. Parce qu'on n'est certainement pas sur un jeu d'égalité entre le top management et l'ensemble des salariés.
De toute façon, Nicolas, encadrer le salaire des patrons, c'est très compliqué.
Pas encadré,
on n'a pas parlé des solutions. Ah. C'est quand même super compliqué au niveau d'un pays parce que vous allez avoir des arbitrages, donc ça ne peut être qu'au niveau européen.
Déjà. Mais... voire quasiment mondial.
Donc vous allez avoir
il y a toujours la tentation de délocaliser le siège.
Donc finalement, le bon moyen pour reprendre une partie du salaire, ça s'appelle l'impôt. Hein.
On peut aussi se réjouir que la plupart de ces patrons qui ont des très fortes rémunérations, parce que le fixe moyen est à 1,2 million, hein, on vit très très bien une année avec 1,2 million de rémunération, ils payent évidemment beaucoup d'impôts. Après, le problème, si on a des fiscalités aussi très désincitatives, c'est d'inciter l'entreprise à aller chercher un statut juridique plus clément.
C'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe quand même dans... Yann m'écrit, tout ce qui est rare et cher ne vaut pas que pour les patrons. Je suis chauffeur de car, je suis rare, ma rémunération est toujours de 1500 euros en moyenne. Il dit pareil pour les aides ménagères et les sages-femmes.
Attention, je n'ai pas pris parti, j'ai simplement dit qu'il existe une théorie économique qui est basée sur la rareté des talents.
La BCE ne peut pas solutionner un problème d'offre énergétique. Ce n'est pas faux ça, Christian Parizeau. Ce n'est pas avec des taux d'intérêt qu'on fabrique des barils de pétrole ou des mètres cubes de gaz.
Mais si, parce que vous ralentissez la croissance économique, la conso, c'est indirect.
Oui, si je ralentis évidemment la conso, oui.
Mais après, ce que vous dira aussi la BCE, c'est qu'une partie de son action passe par sa crédibilité de sa politique monétaire. Et donc, en disant aux salariés et aux entreprises, je vais revenir vers les 2%, ça évite que les entreprises en demandent ou les salariés en demandent les salaires. Donc, c'est aussi là-dessus qu'elle communique, parce qu'elle ne peut pas se permettre, elle ne pouvait pas rester en taux négatif quand vous aviez une inflation à plus de 10% dans la zone euro, très clairement.
Du prix du baril de pétrole, ce n'est pas tant la baisse de la consommation en Europe que la baisse de la consommation en Chine, parce que c'est là que ça fait le poids.
On voit bien que le marché du pétrole scrute la courbe Covid chinoise, et que ça évolue en fonction des nouvelles du Covid chinois. Éric m'écrit, depuis quand les ménages vont débloquer leur épargne pour acheter du pain ou du coca? Une voiture d'accord, mais elle l'aurait débloqué de toute façon, les banquiers centraux sont hors sol. Ça s'entend, cette réaction intuitive, mais...
Oui, alors après, c'est juste qu'on n'achète pas que de l'alimentaire. Et dans l'inflation qu'on a eue, et l'inflation des biens, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y avait une inflation liée à l'automobile. Par exemple, vous avez vu qu'il y avait des pénuries de semi-conducteurs, qu'on a une offre d'automobiles contrainte. Si demain, par ma hausse des taux, par la hausse des crédits à la consommation, le coût du crédit à la consommation, je fais fléchir clairement la consommation automobile, ça va quand même peser sur les prix de vente des voitures, puisque les constructeurs automobiles ont produit moins de voitures en volume, mais ont vendu beaucoup plus cher, avec des effets de gamme, etc., qui ont joué. Mais on voit que derrière, en pesant sur la demande, on joue quand même sur une composante. Alors, je suis d'accord, vous n'achetez pas votre voiture tous les jours, mais dans votre indice des prix, qui est un indice moyen global dans l'ensemble du pays, vous prenez en compte une petite partie de consommation automobile. Donc, c'est clair que sur l'alimentaire, on ne va pas agir énormément. Par contre, sur pas mal d'autres prix, on va agir. Et donc, forcément, c'est plus là-dessus que veut aujourd'hui agir les banquiers centraux, sur tout ce qu'on appelle bien de consommation discrétionnaire, qui est en dehors et qui est beaucoup plus sensible à, naturellement, au taux, et puis la partie immobilière aussi, qui est quand même hyper sensible au taux d'intérêt.
Bon, on avance. Le pouvoir d'achat ne peut pas monter, finalement, dans tout ce qu'on décrit, Emmanuel Combes.
Il peut monter à long terme par des réformes structurelles dont on parle chez vous quasiment tout le temps, éducation, productivité, temps de travail. Oui. Mais à court terme, c'est assez logique que vous ayez un déclin du pouvoir d'achat, puisque les hausses de salaire, comme le disait Christian, en moyenne, ne compensent pas l'effet d'inflation. Alors après, il faut aller regarder décile par décile, en particulier pour les personnes qui sont au SMIC, et tant mieux. Vous avez une compensation intégrale.
Mais ce qui même supérieure à l'inflation.
Oui.
Mais ce qui ça prend en compte l'inflation des 20% les plus pauvres pour la base de calcul, et donc le 8% le SMIC.
Exactement. Mais ce qui intéressant, c'est de regarder en fait les effets inégalitaires à l'inflation. Ça, c'est très important, c'est toujours inégalitaire de toute façon. D'abord parce que le pouvoir de négociation des salariés n'est pas le même, selon notamment son niveau d'éducation, et puis parce que la composition du panier n'est pas la même. Plus on est pauvre, plus la part de l'alimentation est importante. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'inflation alimentaire, c'est entre 12 et 15%.
C'est ça.
Et ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les effets cette fois-ci sur la manière de consommer. Et on voit déjà apparaître depuis plusieurs mois au moins 3 ou 4 changements. Déjà un changement de marque. Les ménages arbitrent entre les marques de fabricants au profit de ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs, qui font un carton dans les supermarchés.
Regardez le plan de Carrefour qui a été annoncé.
Exactement.
C'est un plan de fin d'abondance, très franchement.
Bon, je ne parle même pas de la crise du bio pour d'autres raisons. Ensuite, vous avez un arbitrage entre enseignes. Ça, c'est assez intéressant. Et notamment en France, vous voyez monter en puissance le, entre guillemets, hard discount. Alors, renommé soft discount, pour parler clair, Aldi et Lidl. Il faut bien voir qu'en France, on a toujours eu un hard discount qui a une part de marché assez limitée, un peu en dessous de 10. Et là, on voit depuis 3-4 ans, et là, ça augmente très fortement, une très forte croissance. Alors, on reste sur des chiffres de, je crois que c'est 12%. Pour mémoire, en Allemagne, on est à 40%. Alors, vous me direz, les consommateurs allemands n'ont pas le même rapport à l'alimentation que les Français. Mais je pense qu'on va voir monter en puissance toutes les enseignes hard discount. Et au sein des grandes enseignes, le segment premier prix hard discount. Et puis, on voit aussi des arbitrages, c'est très intéressant, cette fois-ci, dans la manière de consommer. Notamment pour tout ce qui est les biens durables, on va préférer la seconde main, on va préférer la location parfois, on va préférer l'occasion, qu'on fait ce qui se passe sur Internet avec les stratégies de revente, surtout à l'heure du numérique, c'est pas très compliqué, il y a peut-être même d'ailleurs un côté un peu ludique, je revends ce que j'ai acheté juste avant. Donc on voit déjà dans la manière de consommer des arbitrages quand même assez importants.
Mais plus grave, moi j'ai vu des chiffres qui m'ont vraiment impressionné. La réalité de l'alimentation quotidienne des Britanniques, vous avez un ménage sur deux qui consomme des plats préparés parce que ça évite d'allumer la gazinière. Je ne sais plus quelle est la quantité.
Non, vous avez des arbitrages.
Qu'un repas par jour en Grande-Bretagne. Ouais. Et il y avait un chiffre que j'ai vu hier, mais je n'ai pas encore expertisé la source, regardé précisément. Mais mon chiffre, à 7 millions, le nombre de personnes atteintes de précarité alimentaire en France.
Ouais.
Quand même des... Enfin, on est un pays riche, normalement, avec des niveaux d'impôts de dingue.
Ah, mais n'oubliez
avec
pas
une dépense publique de dingue, avec une redistribution hallucinante. Et on a cette réalité.
Ah, mais attention, l'alimentation, dans le budget des ménages, j'ai plus le coefficient en tête, mais c'est, à mon avis, c'est le deuxième poste après le loyer, je suppose, après le logement. Donc, plus vous êtes pauvre, plus proportionnellement, ça représente une part importante de votre revenu.
Quel rôle peut jouer la concurrence? C'est un de vos dadas. Je veux en dire un mot, pas trop long.
Vraiment un mot. Il y a deux leviers. Il y a un premier levier où, malheureusement, j'y crois plus ou pas trop, parce qu'il est très difficile politiquement, c'est ouvrir certains secteurs où la concurrence n'est pas suffisante, où on sait que les marges en partie relève d'un certain nombre de rentes. Je donne un exemple très concret. L'autorité de la concurrence l'a dit 1000 fois, mais c'est un exemple parmi d'autres. Le secteur des audioprothèses, où on sait qu'il y a une tendance quand même inflationniste. Et puis vous avez un second levier, moi je crois plus à ce levier-là, qui est, et ça rejoint un peu ce que disait Christian tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu du pricing power, être certain que dans certains secteurs, il n'y a pas des pratiques anticoncurrentielles. Et notamment une pratique anticoncurrentielle assez classique, surtout en période d'inflation, c'est de s'entendre sur les hausses de prix. Ça s'appelle un cartel.
Oui.
Et donc là, on voit bien.
C'est votre ancien boulot, hein.
Voilà, on voit bien le rôle que peut avoir une autorité de concurrence, juste que pour nos auditeurs soient bien fixés. Statistiquement, je dis bien en moyenne, un cartel, ça fait monter les prix entre 13 et 15%. On ne parle pas de choses epsilonesques. Hein, donc, vous voyez, lutter contre les cartels, éventuellement également contre les abus de position dominante, qui en limitant la concurrence sur le marché. Parce que quand vous abusez, vous évincez un petit, font monter les prix, vous avez quand même un levier qui est important. Et c'est peut-être pas un hasard si Biden aux États-Unis, quand il nous parle de son programme de lutte contre l'inflation, il vous parle aussi d'un autre programme qui est la réhabilitation de la politique de la concurrence. On le sait, aux États-Unis, vous avez des secteurs, et on parle pas du numérique là, on parle du secteur du poulet, le secteur du transport aérien, où vous avez des marges qui sont anormalement élevées, qu'ont fait tous les travaux de Thomas, notamment de Thomas Philippon. Donc je dis pas que la politique de concurrence c'est l'alpha et l'oméga, hein. Mais vous avez quand même un levier qui, à mon avis, coûte pas grand-chose au pouvoir public, hein, et qui peut rapporter quand même en termes de d'efficacité économique.
12 à 15% de hausse.
Il y a une étude sur 3000 ou 4000 cartels sur un siècle qui vous montre qu'en moyenne, les cartels augmentent les prix entre 13 et 15%.
Laurence Daziano, vous avez regardé le signal d'alarme quand même du FMI à l'égard de la France. Hein. Attention, vous êtes l'un des seuls pays pour lequel la dette va se dégrader. Et vous serez l'un des derniers à revenir dans les 3% de déficit public. C'est quand même pas réjouissant. Et après, il y a toute une série de recommandations. Qu'est-ce que vous en retenez ?
J'en retiens que le FMI dit à la France et dit aux Français, vous vivez au-dessus de vos moyens. Votre déficit public, ça va être 5% en 2023 comme en 2022, donc vous n'avez pas fait d'effort. Que si les aides, certaines aides, notamment pour l'énergie, étaient un peu mieux ciblées, vous pourriez peut-être descendre à 4,6% de déficit. Donc, et, ce qui sera fait, hein, ça va venir, mais en attendant, on s'est quand même beaucoup endetté. Certains impôts, notamment les impôts de production, devraient peut-être être baissés en 2023 pour les entreprises. Et que il va falloir faire les réformes structurelles, il va falloir encore baisser les dépenses courantes, c'est-à-dire ce que disait Emmanuel, c'est faire certaines réformes structurelles de fond qui sont
retraite, assurance chômage
repoussées. Bah voilà, il y a les retraites, l'assurance chômage et une enfin ce qu'on disait, on est dans un pays où le taux d'imposition est aujourd'hui le très important en Europe, les dépenses sociales, enfin sont les plus importantes en Europe.
Pratiquement 800 milliards par an.
Qu'est-ce qu'on a en face? On l'a dit, on a un système éducatif qui fonctionne plus, on a un système judiciaire qui fonctionne plus, on a un système de santé qui fonctionne mal. Donc la question c'est où va cet argent? La France est un pays riche.
Non, mais vous savez où va cet argent? C'est l'une des phrases de déclenchement des Gilets jaunes. C'était cette fameuse dame là sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites du pognon, je crois.
Ouais, mais au bout d'un moment, on est quand même à 5% de déficit, oui. De déficit public. On sera effectivement les derniers à revenir sur les 3%. Et le FMI commence à s'intéresser à la France. Donc je pense que c'est vraiment un signal à prendre en compte. Ça peut aussi aider le gouvernement à faire les réformes qui sont difficiles. Et puis, il va y avoir le contexte européen. Et si la contrainte vient aussi de l'Europe, et notamment ces 3% qu'il faut atteindre, ça peut aider à faire les réformes structurelles. Mais les réformes structurelles sont devant nous et on n'y coupera pas. Et plus on les retarde, plus elles seront douloureuses.
J'imagine Bruno Le Maire qui... Écoutez, je ne peux pas faire autrement, c'est le FMI qui le dit.
Ouais, je pense que c'est plutôt les marchés qui vont le dire.
Oui, enfin, après les marchés.
Je pense que c'est les marchés. Parce que
vous y croyez un jour à une tension de marché, une tension de crédit sur
regardez le Royaume-Uni. Alors je sais que c'est spécial, ils sont en dehors de la zone euro. Hein. Mais regardez le Royaume-Uni.
Et nous, on a le Royaume-Uni, comme monnaie.
Non, mais le Royaume-Uni a eu beaucoup plus d'impact. Parce que moi, je suis assez bluffé sur l'absence de réformes aussi fortes que l'avait dit le gouvernement italien. On voit que le gouvernement italien qui a présenté son budget marche sur des œufs.
Oula, oui.
Qui regarde toutes les heures comment évolue le spread de taux d'intérêt entre l'Italie et l'Allemagne. Et on voit que tout le monde a été très marqué par ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Alors, d'accord, on est en zone euro, d'accord, on est protégé par cette espèce de zone euro, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un élément encore, et je reviendrai sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Si les banquiers centraux commencent à rémunérer l'épargne et qu'on nous dit que maintenant, on revient dans des politiques monétaires avec du quantitative tightening, c'est-à-dire qu'on commence à réduire, voilà, on resserre, et on réduit la taille du bilan des banques centrales, donc ça veut dire que les banques centrales ne sont plus à acheter la dette des États, donc maintenant on va véritablement laisser le prix de marché se mettre sur le prix de la dette. Parce que quand vous aviez une banque centrale qui achetait plus que ce qu'émettaient les États, vous ne pouviez pas avoir des taux d'intérêt élevés. Donc maintenant qu'on revient peut-être à des politiques durablement beaucoup plus restrictives au niveau monétaire, qu'on a d'un autre côté des besoins d'investissement qui vont exploser, donc il va falloir à un moment donné avoir des finances publiques qui soient crédibles en termes d'endettement et en termes de dynamique de dette. Et donc aujourd'hui, très clairement, il va y avoir une très grosse pression sur les dépenses, parce qu'il faudra investir, et donc les dépenses courantes, il va falloir très clairement les contraindre, et donc il y a vraiment une flexibilité aujourd'hui, et tous les boucliers énergétiques, j'ai peur que ça soit un petit peu le passé, hein, dans les prochaines années, parce que dans les prochaines années, on ne pourra plus faire des boucliers énergétiques, parce qu'on aura ces contraintes budgétaires qui vont réapparaître très très vite. Donc oui, il y a un changement de monde, et je pense que c'est en train d'aller beaucoup plus vite que le perçoivent les politiques actuellement.
Qu'est-ce que vous faites du pognon? Alors, une anecdote, je m'étais retrouvé un jour après une émission de télé avec un ancien ministre de l'économie, on va le dire comme ça. Et je lui avais dit, bon, on est d'accord, le seul truc qui compte, c'est le taux à 10 ans de l'OAT. Il me dit, mais il n'y a que ça qui compte, évidemment. Le seul truc qu'on regarde du matin au soir, comme le lait sur le feu, comme sa montre ou comme son téléphone, quand on est à Bercy, c'est à combien est-ce que mon obligation part en ce moment sur les marchés. Et quand ça commence à faire ding 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 ding, là c'est warning. Et si ça fait vraiment ding 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 et que le FMI arrive, on a intérêt à réagir vite.
Et si on vient avec des taux réels, c'est vous. Ça sera vraiment.
Ah ouais.
Là, ça changera. On changera de monde.
C'est vous qui nous aviez. On va pas le refaire, mais vous nous aviez décrit à quel point une bascule de confiance dans la note, enfin dans la solvabilité d'un État, ça peut intervenir vite.
C'est, ouais.
Alors allez-y, pardon.
Je vais rebondir.
Emmanuel Combes.
Vous venez de le dire.
Ah mince, j'ai tout dit.
Bon, non, vous venez de rebondir. C'est l'idée que la crédibilité, c'est quelque chose qui est très long à acquérir.
Oui.
Et ça peut se perdre très vite. Et c'est souvent cumulatif. Et la crédibilité, la remontée des taux, c'est souvent face à un événement exogène. Une grève qui embraye, qui devient un mouvement social, ça peut aller très très vite. Donc l'idée que pour l'instant tout se passe bien ne préjuge pas du fait que vous pouvez avoir un accident endogène, exogène, peu importe, et que ça peut aller super vite. Et une fois que ça va vite, c'est très compliqué ensuite de...
Et regardez le Royaume-Uni, je trouve ça alors c'est une illustration parfaite. Maintenant, quand le nouveau Premier ministre anglais...
Plus que Liz Truss avait
voulu... suite à Liz Truss, quand le Premier ministre anglais doit présenter son budget, il est pris en tenaille entre deux choses. Soit il fait un budget trop restrictif et on va le condamner, on va lui dire il va casser la croissance et le ratio dette sur PIB va augmenter parce qu'il va casser la partie PIB. Soit il fait il présente un budget qui est pas suffisamment restrictif et on dit on va dans le mur parce que les dépenses publiques vont partir à volo et que ça va faire exploser l'endettement. Donc on voit que une fois que vous avez perdu la confiance des marchés, la communication vis-à-vis des marchés est très 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 compliquée parce qu'il faut pas en faire trop, il faut pas en faire pas assez. Et donc et on le voit avec la dette anglaise, hein. Je sais pas si vous avez vu la volatilité des taux anglais actuellement, elle est monstrueuse parce qu'on voit qu'il y a un conflit sur le marché pour savoir est-ce qu'on leur fait confiance réellement, et ça a été brisé en quoi? En une semaine. Et donc on voit
derrière
ça bloque complètement la politique budgétaire. Attention, c'est pas que de la science-fiction et ça va très très vite.
Ce que vous disiez, Laurence Daziano, ça me rappelle la question que j'avais un jour posée à François Eckhall de Fipeco qui m'avait répondu vraiment du tac au tac. J'avais dit mais François, vous regardez les finances publiques depuis des années. Vous avez décortiqué les fonctionnements de tous les budgets locaux, les budgets centraux, les budgets sociaux. Il a même d'ailleurs établi lui-même une feuille de route sur comment on pourrait baisser la dépense publique dans quelque chose de socialement à peu près acceptable, de 10 milliards d'euros tous les ans pendant 6-7 ans. Ce qui serait, avait-il calculé, la nécessité pour stabiliser la dette, juste la stabiliser. Et je lui avais dit, François, est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver en France? Et il m'a dit, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et Laurence décrit, on n'a que des services publics pour lesquels on a le sentiment de ne pas en avoir pour notre argent, et pourtant on a une dépense publique colossale. Et il y a une forme de désespoir. Et quand on demande d'ailleurs il y a quelquefois eu des réunions de parlementaires sur essayons de mettre le sujet sur la table et très concrètement, si on doit réduire la dépense publique, par où on commence? C'est le désert d'idées en fait. Personne ne sait sur quel bouton appuyer. Il n'y a que deux éléments de baisse de dépense publique vraiment, vraiment redoutables. C'est la réforme des retraites et de l'assurance chômage.
Et on ne peut que regretter, et on ne peut que regretter de ne pas avoir fait les investissements lourds qu'on aurait pu faire quand les taux étaient très bas, voire négatifs. Ouais. Et c'est là qu'il aurait fallu faire les investissements dans les centrales nucléaires, dans l'éducation, dans toutes les infrastructures dont on a besoin dans un pays et qui vieillissent et qu'il faut renouveler. C'était quand les taux étaient bas, voire négatifs. Et on ne l'a pas fait. C'est une occasion manquée qui est vraiment de la responsabilité de ceux qui étaient aux commandes à ce moment-là.
C'est l'économie politique. On parle d'investissement à long terme. Donc celui qui les fait à court terme n'en voit pas le rendement. Enfin, on est toujours autour du même sujet. C'est
l'économie est à long terme.
Je travaille pour mes successeurs, c'est-à-dire peut-être même mes opposants.
Bon. Si je comprends bien, le contribuable va payer les erreurs et les incompétences de la gestion énergétique. Il y a ce bras de fer qui est en train de s'installer, Laurence Daziano, entre l'Europe d'un côté, pilotée vraiment par la France et par l'Allemagne, pour une fois qu'ils sont main dans la main, les deux ministres, en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Ils sont quand même très remontés contre cette loi de lutte contre l'inflation qui a été votée aux États-Unis, considérant qu'on est devant une énorme et historique distorsion de concurrence, pour ne pas dire un acte de protectionnisme, et ils demandent à Bruxelles de réagir. Et je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez planché, notamment la capacité d'une Europe à être elle-même, quoi.
Alors effectivement, donc Joe Biden a fait passer sa législation dite anti-inflation qui vise à subventionner fortement certains secteurs et à en protéger d'autres, c'est-à-dire à faire une production qui est plus locale. Il y avait déjà dans la législation américaine ce qu'on appelle le Buy American Act et notamment les marchés publics américains qui sont réservés aux entreprises américaines. Et il y a quelques années, dans une note de la Fondapol en 2017, j'avais soulevé l'idée aussi de faire un Buy European Act, c'est-à-dire de réserver les marchés publics européens en priorité à des entreprises européennes, alors dans une fourchette encore à déterminer. Mais même avant d'aller sur un acte législatif, simplement, et on le voit bien, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'industrie automobile, et on l'a vu lors du salon de l'automobile, les véhicules électriques. L'Union européenne a fait toute une législation sur les voitures électriques, mais on a oublié de dire qu'il pouvait y avoir certaines spécificités techniques qui auraient pu favoriser l'industrie européenne. Au lieu de cela, ça favorise l'industrie chinoise. Donc l'Europe marque contre son propre camp, toute seule, elle-même. Et donc, l'Europe pourrait mieux protéger son marché qui est aujourd'hui complètement ouvert, alors que la compétition mondiale, elle n'est pas du tout ouverte. Les Américains protègent déjà leur marché, les Chinois protègent déjà leur marché. Il n'y a que l'Europe qui ne protège pas son marché. Et après, on s'étonne que les industries européennes n'arrivent pas à croire. Donc, un Buy European Act qui, encore une fois, en déterminant à quel pourcentage certains marchés seraient réservés aux entreprises européennes, ça ne serait jamais que de s'aligner sur ce qui est fait ailleurs.
Alors, est-ce
que ça détruirait la coopération mondiale et notamment cette idée d'aller devant l'OMC? Alors, porter un différend devant l'OMC, je rappelle que l'organe de règlement des différends de l'OMC est dysfonctionnel, Emmanuel connaît ça mieux que moi, donc c'est agiter une épée dans l'eau et en disant les Américains, vous allez voir ce que ça va faire, mais les Américains ils font ce qu'ils veulent, ils ont le gaz liquéfié dont on a absolument besoin. Donc s'ils veulent monter le prix de l'énergie, favoriser leur industrie et que nous, on a ce choc énergétique, ils le feront. C'est vraiment de la rodomontade. Il ne peut pas y avoir quelque chose de concret derrière.
Il y a eu quelques actions européennes, notamment tout récemment l'Allemagne qui a bloqué le rachat d'entreprises allemandes par des Chinois et les Britanniques qui ont imposé à un Chinois de sortir du capital d'un groupe britannique de semi-conducteurs, je crois, dont le Chinois
c'était
avait
86.
Oui, pardon, Emmanuel.
Oui, alors c'est un.
Non, mais je vous laisse réagir à ce que disait Laurence Daziano. On a 4 minutes 20. On est devant un vrai sujet. On l'a évoqué hier, à peu près dans les mêmes termes, d'ailleurs, avec les invités qui étaient là.
Alors, juste quelques remarques sur l'OMC. Laurence a raison. Les procédures sont très, très longues. Oui. C'est des procédures anti-subvention, voire anti-dumping. Ça prend 5 ans, 10 ans. Donc, c'est pas efficace. Et, second point, en effet, si les autres se protègent, parce que c'est du protectionnisme.
Ben oui.
Subvention, ça s'appelle du protectionnisme. Votre meilleure réponse, c'est presque de la théorie des jeux, si les deux autres puissances se protègent, votre meilleure réponse, c'est de vous protéger aussi. Ceci étant, attention quand même, la perte collective. La mondialisation, ça a quand même une vertu. Ah, oui, ça a une vertu, c'est que ça incite à innover, la concurrence internationale, ça incite à être performant, ça incite à être efficace. Donc j'entends le raisonnement qui est de dire, à partir du moment où ils se protègent, notre meilleure réponse c'est de se protéger, sauf qu'on est tous d'accord, il y a une perte de bien-être collectif. Il y a quand même pas mal de travaux empiriques.
Ce que dit Laurent sur la voiture électrique, une sur deux est chinoise.
Je suis d'accord.
Et en 2035,
je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, oui. Je dis simplement, voyons bien le résultat final, oui. Les études empiriques vous montrent quand même que la mondialisation, l'ouverture à l'importation, d'abord on est ouvert dans les deux sens, l'ouverture à l'importation est un facteur de compétitivité parce que ça nous incite
à être... Et de gain de pouvoir d'achat.
Et oui, et puis surtout de compétitivité, être plus efficace. Regardez les travaux de Haguillon ou même de Jaravel qui vous montrent qu'en réalité, c'est une incitation à être efficace. Et puis il y a un lien aussi entre importation et exportation. Quand j'importe moins, je suis moins efficace à l'export parce que les importations sont souvent des inputs qui vous permettent d'être plus performant à l'export. Ce que je veux dire par là, attention, l'idée de dire il n'y a qu'à Faucon se protéger, on n'a peut-être pas le choix, j'entends ce point-là. Mais voyons bien qu'à la fin des fins, tout le monde, à mon sens, tout le monde est perdant.
Et puis il faut peut-être accepter aussi une autre idée, c'est que si on veut tout produire en Europe, il faut accepter la pollution qui va avec.
Oui.
Faut peut-être accepter de faire du gaz de schiste, accepter faire du pétrole de schiste, accepter des terres rares, des exploitations, toute la PAC que ça a sur l'eau, sur la pollution. Donc faut aussi voir un peu le coût derrière tout ça, parce que les États-Unis sont moins cohérents. Ils veulent produire aux États-Unis, mais ils veulent tout produire, toute la chaîne, y compris le lithium et tout ça, aux États-Unis. Donc derrière, ils acceptent aussi une dégradation au niveau de leur environnement. Donc voilà, ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser derrière.
Est-ce qu'on serait d'accord pour exploiter des gaz et des pétroles de schiste sur le sol français, par exemple?
Par exemple.
Je pense pas que ça passerait tranquille.
On a quand même bougé en Europe depuis 3-4 ans avec les PIEC. Je veux dire, le PIEC hydrogène, c'était pas pensable.
Le PIEC, c'est des
grands programmes industriels, hydrogène, batterie, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on compare les montants mis sur la table par Biden, je crois que c'est un peu plus de 370 milliards de dollars, avec ce que l'on met sur l'hydrogène, sur la batterie. Le compte n'y est pas, mais il y a quand même des choses qui se passent. Donc on pourrait dire qu'il y a un instrument peut-être plus malin que seulement se protéger ou mettre des normes, c'est continuer à faire de la politique industrielle. Ce qui revient à dire à s'asseoir soi-même sur les subventions, puisque je vous rappelle, normalement, un programme de subvention industrielle en Europe, c'est incompatible avec les règles sur les aides d'État. Donc vous voyez, au fond, on va arriver à un jeu non coopératif. Je ne suis pas sûr à la fin, quand on fera le bilan dans 30 ans, que ça sera forcément le truc le plus efficace. J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix que c'est efficace.
J'entends quand même ce que dit Laurence Daziano. Quand on a une Europe qui veut toujours essayer d'aller vers la concurrence parfaite, toujours faire la promotion du libre-échange, toujours mettre plus de normes pour que tout soit plus vert, tout soit plus vertueux, tout soit meilleur pour la santé. On a l'impression qu'on est champion dans tous ces domaines. Ouais. Mais qu'à force d'être champion dans tous ces domaines, il y a un affaiblissement objectif.
Enfin, sur le vert, on met quand même la taxe aux frontières. Donc on inverse plutôt la relation. On dit, si vous êtes moins propre que nous, logiquement. Mais attention, il y aura une perte collective. Enfin, au bout d'un moment, ça s'appelle du protectionnisme. Les périodes de protectionnisme sont rarement des périodes de prospérité économique.
Je suis d'accord que l'histoire nous enseigne que les moments de protectionnisme sont des moments où il y a des pertes de pouvoir d'achat et des hausses de prix.
Étude intéressante du Peterson Institute, on en parlait avec Laurence tout à l'heure, on voit une forme de, alors je sais pas si c'est de la démondialisation, mais les taux d'ouverture des économies depuis la crise de 2008 sont en retrait. On avait atteint un taux d'ouverture, alors c'était export plus import sur PIB mondial, de 60%. On est à 57%, c'est du jamais vu. Ce déclin est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Il y a aussi des faits. Là, actuellement, un constructeur automobile non américain risque de ne plus vendre une voiture sur le sol américain. Bon, c'est quand même pas... C'est pas peanuts. Bon, on a fini, voilà. Il y a plein de réactions aujourd'hui, j'ai pas pu toutes les citer, bien sûr. Parce que je les lis, vous savez, en même temps que je discute avec mes invités, ce qui est quand même un peu désagréable pour eux quand j'ai la tête baissée vers mon téléphone. Et puis quand même, je veux voir avant ce qui est dedans, avant de le lire publiquement. Parce que je reçois un peu de tout. Il y a des choses passionnantes, et puis il y en a qui sont plus caricaturaux. Laurence Daziano aujourd'hui, Emmanuel Combes et Christian Parizeau. On se retrouve demain à 9h.